Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 8h40, bienvenue. Dans quelques instants, Philippe Bilger reviendra sur Emmanuel Macron. Et puis, en attendant, qu'est-ce qui fait parler ce matin? C'est avec Benjamin Glaise, la revue de presse.
Ah bah, quelle surprise! Le président de la République positif, s'il s'affiche à la une de la plupart des journaux aujourd'hui.
Bah oui, là, c'est l'unanimité, effectivement. Le pouvoir à l'isolement. On commence avec le titre choisi par l'indépendant catalan, positif au Covid-19. Emmanuel Macron et son entourage ont été placés en quarantaine. D'ailleurs, dans Libération, eh bien, un photomontage représente le palais de l'Élysée totalement confiné, donc quoi, dans une boule à neige, symbole de la féerie de Noël version 2020, avec ce titre en forme de jeu de mots, branle-bas de Covid à l'Élysée, et pour cause, en annonçant être positif au coronavirus, Emmanuel Macron oblige son Premier ministre, mais aussi plusieurs leaders étrangers à se placer comme lui, en quarantaine.
Oui, la santé du président qui a la une de plusieurs journaux, aujourd'hui en France, Sud-Ouest, etc.
Oui, on commence par le Parisien aujourd'hui en France, qui prend des airs un petit peu de consultation chez le docteur. Ce matin, le président de la République tousse et souffre d'une grande fatigue, c'est ce qu'on nous dit. Isolée pour 7 jours, elle continue tout de même de travailler sous la surveillance d'un médecin-chef militaire. L'exécutif va s'adapter à la quarantaine du président, indique d'ailleurs le Figaro. C'est aussi à la une, effectivement, de Sud-Ouest, le Covid au sommet de l'État, tandis que la Dépêche de Midi titre sur le président en quarantaine, le chef de l'État, qui est finalement un Français comme les autres. C'est ce que suggère Vaucluse Matin, qui écrit 18 000 nouveaux cas de coronavirus, dont Macron.
Oui, et on va parler dans un instant de François Bayrou, cas contact justement avec Nicolas Rebière, directeur de la publication de la République des Pyrénées, qui sera avec nous. Et puis il y a un autre sujet, avec un petit air de fête quand même aussi dans Midi Libre.
Bah oui, ça fait du bien avec en l'occurrence une nouvelle appellation, l'huître de Méditerranée. 560 ostréiculteurs peuvent désormais faire la promotion de leurs produits sous un même label, donc c'est de bon augure pour les fêtes et pour eux. Et puis on termine avec ce titre, une occasion en or, ça c'est la une de l'Équipe, c'est du sport. Nord, N-O-R-D, avec c'est du handball féminin, en l'occurrence, demi-finale de l'Euro. France-Croatie ce soir à 18h, face à cette équipe croate inattendue, néophyte. À ce niveau, eh bien, les Bleus sont favorites pour cette demi-finale, sauf accident. Elles devraient retrouver en finale le Danemark ou la Norvège, d'où ce titre, donc occasion en Nord, N-O-R-D.
Oui, absolument. On lui suivra, les handballeuses françaises. On poursuit avec Nicolas Rebière, je le disais, donc de la République des Pyrénées. Bonjour Nicolas.
Bonjour à tous.
Oui, alors François Bayrou a été cas contact après un déjeuner, lui, c'est ça, avec Macron.
Alors, c'était un dîner.
Le dîner, pardon.
Oui. C'était un dîner, on va dire, des chefs de la majorité. Et c'est le point qui a révélé l'info. Nous, on a évidemment appelé François Bayrou, c'est le maire de Pau.
Bien sûr.
Bon, qui nous a dit qu'il s'était mis à l'isolement. Et d'ailleurs, hier, il avait un conseil d'agglomération avec les maires de l'agglo de Pau. Et il l'a fait, une fois n'étant pas coutume, en distanciel, en visio. En tout cas hier, il n'avait pas de symptômes, qu'il allait voir sa fille parce que c'est pratique, elle est médecin, et surtout il nous assure que bon, certes, ils étaient plus de 6 à table, alors qu'on nous répète qu'il faut qu'on évite de plus de 6 adultes à table, mais nous assure-t-il, c'était autour d'une table de 15 mètres de long dans une salle large de 60, et il y avait 3,50 mètres entre chaque convive avec des micros. Tous les gestes barrières ont été respectés, promet-il. C'est pas la première fois d'ailleurs que François Bayrou était à contact. Il avait déjà été, il avait échappé à une infection du Covid. En tout cas là, il m'a pas l'air très inquiet, même s'il faisait partie, comme je vous dis, de ses convives du soir à l'Élysée, alors que Emmanuel Macron était déjà positif et qui compte. Il y a pas que les chefs d'État étrangers. Il y a Jean Castex qui doit s'isoler. Il y a Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale. Il y a Patrick Mignola qui est le patron du groupe, le groupe Modem à l'Assemblée. En gros, c'est toutes les têtes de la majorité là qui doivent s'isoler suite à ce dîner. Finalement, alors espérons que effectivement la table faisait bien 15 mètres de long.
Ouais. Sinon, ça. C'était dans la grande salle des fêtes de l'Élysée où il y a beaucoup de place. Et puis d'un mot aussi, parce qu'il y a une enquête que vous avez menée sur les étudiants palois qui ont subi le confinement. C'est un bon enseignement, ça.
C'est intéressant parce que bon, il était temps. Remarquez, les étudiants sont en vacances là dès ce soir, mais on s'est rendu compte que ce second confinement a été plus difficile pour les étudiants. Les premières années, par exemple, c'était les lycéens qui ont arrêté le lycée au mois de mars, qui ont repris après en juin, qui se retrouvent à la fac et doivent repartir alors qu'ils découvrent un nouvel univers. Mmh. On se rend compte aussi que ce sont les étudiants étrangers pour lesquels le confinement a pesé le plus. Ils peuvent pas rentrer chez eux. Ils sont pas forcément boursiers. Et sans bourse, on se rend compte que, par exemple, l'épicerie solidaire des étudiants à Pau a doublé sa fréquentation. C'est-à-dire, c'est des aides d'urgence. Hein. Ce sont des paniers repas qui sont distribués parce que la plupart aussi ont perdu leur boulot. Beaucoup bossent dans les restos, etc. Évidemment, les restos fermés, il y a une espèce d'effet de boule de neige de ce second confinement qui a pesé sur le moral des étudiants.
Oui, c'est vrai. Merci beaucoup, hein, Nicolas Rebière. Passez aussi de bonnes fêtes, même si ça va continuer, évidemment, la revue de presse aussi la semaine prochaine avec Benjamin Glaise sur Sud Radio. Merci, Nicolas, de la République des Pyrénées.
Et on continue ce petit déjeuner de l'actu ce matin à 8h45 avec Philippe Bilger. Bonjour, Philippe.
Oui.
Bonjour.
Philippe Bilger, dans un instant aussi, Éric Revel, hein, qui est toujours avec nous. Et puis, on ira prendre des nouvelles de la Catalogne, parce que alors, c'est un imbroglio total. On ne comprend plus. Et si les gens vont devoir se déplacer, ne pas pouvoir se déplacer, eux-mêmes, ils ne le savent pas là-bas, on ira dans un instant. Philippe, vous voulez revenir? Alors, pas forcément sur le dîner et puis Macron positif. C'est, vous voyez, Macron l'opportuniste dans toutes les décisions de ces dernières semaines, quoi.
Absolument, Patrick. Évidemment, je suis touché par le fait que le chef de l'État est atteint par la Covid et par la légère contradiction du déni de la veille, mais le pouvoir des servitudes que le commun des citoyens n'a pas. En effet, je suis frappé par un processus chez le président qui est de perpétuelle compensation et ajustement. Lorsqu'il dit, à mon avis, cette absurdité dans Brut où il dénonce les violences policières, il sent la fronde qui monte et après il propose un Beauvau de la sécurité qui n'est d'ailleurs pas une mauvaise initiative à mon avis, même si l'UNSA et l'Alliance sont contre. Ensuite, par exemple, il avait mis en place, il avait élaboré, souhaité qu'on mette en place un projet de loi fort contre le séparatisme, il devient un projet pour renforcer les principes républicains. Donc il y a une légère atténuation, un ajustement. Et enfin, sur l'écologie, c'est le mouvement le plus net, dans la mesure même où les mesures qu'il propose sont très atténuées par rapport aux exigences de la Convention citoyenne. Il propose un référendum qui fait beaucoup d'effets, mais qui risque d'avoir du plomb dans l'aile parce que politiquement et constitutionnellement, cette initiative, cette demande du chef de l'État va poser de grands problèmes.
Bon, donc à chaque fois, effectivement, il rebondit sur un problème. C'est ça.
Pour absolument.
Essayer, ouais, mais sans le résoudre totalement, quoi.
Sans le résoudre, c'est-à-dire que il est en permanence à l'écoute de ce qui se passe. Et au fond, lorsqu'il lance un ballon, c'est un ballon d'essai. Parfois, ce sera maintenu, mais la plupart du temps, il procède par ajustements successifs, ce qui peut faire douter de sa sincérité, en tout cas pas de son sens tactique.
Bon, voilà. Alors, à propos de sens tactique, et évidemment, il y a beaucoup de questions qui se posent sur un président dans une situation telle que on la connaît aujourd'hui, prendre des mesures de prudence ou pas avec, il a contracté le virus. Éric Revel, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce qui s'est passé et de ce fameux dîner qui fait beaucoup causer?
Oui, alors je vais vous dire ce que je pense du dîner, mais j'aimerais juste, si vous permettez,
réagir sur
François Bayrou.
Ah oui, sur François Bayrou.
François Bayrou, oui, parce que François Bayrou, il est haut commissaire au plan, bon, quand même.
Oui.
Et moi, je me dis, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas entendu parler du maire de Pau, ça fait tellement longtemps que je me disais, mais en fait, il est à l'isolement depuis plusieurs mois, François Bayrou.
Ouais.
Il doit avoir un sacré virus, parce que personne ne sait ce qu'il fait, personne n'entend parler de lui, il est haut commissaire au plan, et bon, il fait des dîners. Alors, sur l'affaire du dîner... Moi, je me mets à la place des gens, et on se l'applique à soi-même, c'est qu'on ne peut pas comprendre pourquoi, alors qu'on nous interdit d'être plus que 6 autour d'une table, on peut être à 12, etc. Parce que, en réalité, c'est vrai que la salle des fêtes de l'Élysée, elle est énorme. Je crois que c'est 1000 mètres carrés.
Énorme,
je crois que la table, elle fait bien 15 mètres. Je crois qu'elle fait bien 4 mètres de large. Donc, on se dit, a priori, il n'y a pas de souci. Ils ne vont pas se contaminer. En plus, ils s'adressaient la parole via des micros. Bon, très bien. Mais... comment est-ce que vous voulez expliquer aux gens qu'il faut respecter des règles que des puissants ou des personnalités politiques ne respecteraient pas, même si, encore une fois, la salle des fêtes de l'Élysée est gigantesque et qu'on peut estimer qu'il y a une distanciation. Bon, ça, c'est un vrai sujet. Et je ne sais pas si vous avez regardé hier, Patrick et Philippe, les premières vidéos, les premières images d'Emmanuel Macron à l'Élysée tenant une vidéoconférence pour réunion humanitaire, je crois, sur la reconstruction de la Syrie. Mais alors, moi, je ne sais pas s'il y a une part de communication, etc. Mais je l'ai trouvé, alors pour le coup, fatigué. Je l'ai trouvé fatigué, honnêtement. Le ton un peu traînant. Ouais,
tout à fait.
Je l'ai trouvé un peu souffrant.
Les premiers symptômes, quand même.
Ah oui, 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 je l'ai trouvé un peu marqué. Alors, je ne sais pas si c'est de la communication, de la mise en scène du pouvoir, mais visiblement, il n'est pas légèrement touché. Et vous le savez, évidemment, et Philippe le sait mieux que quiconque, et Patrick aussi, c'est que la santé des présidents, ça a toujours été un sujet, mais hallucinant. Pourquoi ? Mais parce que Georges Pompidou, lorsqu'il était en exercice, et d'ailleurs il est mort, président de la République, il a énormément souffert, et on pensait que, voilà, il grossissait, il mangeait trop, alors qu'après on a appris qu'en fait il était dans un traitement épouvantable à la cortisone. Et puis François Mitterrand, parce que Claude Gubler, son médecin personnel, a menti pendant des années sur des bulletins de santé. Alors comparaison n'est pas raison, parce que
non, ça
la
a changé.
COVID-19, pour un jeune président, c'est pas la même chose qu'un cancer qui dure depuis 15 ans pour François Mitterrand. Mais la santé des Français, la santé du président, c'est un sujet central d'intérêt, de préoccupation, pour les Français, parce que c'est le corps du roi, parce que la place du président de la République dans la Constitution de 58, c'est une place gigantesque et au-dessus de tout le monde.
Oui. Philippe ?
Comme vous l'avez laissé entendre, Patrick, il est évident que la différence entre la situation de Georges Pompidou et celle de François Mitterrand tient au fait que, évidemment, on ne voulait pas faire connaître leur état de santé, tandis que celui d'Emmanuel Macron n'inspire aucune inquiétude. Donc, évidemment, on en parle.
Oui,
c'est une grosse
va
différence.
Va n'inspirer aucune inquiétude. Bon, attendez, quand même, on ne sait jamais comment on réagit. Quand même.
Non, mais Patrick, à ceci près, quand même, qu'il n'y a pas eu de bulletin de santé.
Ouais. Non.
On sait qu'il est parti à la lanterne dans la résidence qui, depuis Nicolas Sarkozy, n'est plus celle du Premier ministre, mais celle du Président de la République. Mais à ma connaissance, il n'y a pas eu de bulletin de santé de publié.
Non.
J'ai vu l'Élysée qui indiquait qu'il ne publierait un bulletin de santé que si la situation sanitaire du président de la République s'améliorait ou se dégradait. Mmh. Mais pour l'instant, on ne sait pas exactement s'il est très malade ou pas malade. Bah, attendez, ça peut avoir une influence.
On a moins d'angoisse qu'à l'époque. Enfin,
c'est vrai. Bon, après, il y a une question qui se pose, mais on l'a déjà évoquée ce matin. Est-ce que c'était un dîner de travail qui était indispensable, sachant que ce n'était pas forcément pour la bonne marche du pays, mais c'était davantage pour la préparation des élections régionales, avec le tour de table en question, François Bayrou, Castaner, Ferrand, les partenaires du MoDem et ceux qui préparent la stratégie du président. Ah, bon, ben bah, voilà. Mais ça, bon, bah, écoutez. On va continuer, je pense, de débattre dans les jours qui viennent autour de ça. On souhaite quand même aussi un bon rétablissement au chef de l'État et puis aux cas contacts qui étaient avec lui quand même. Merci Philippe et Eric. On va aller faire un petit tour. Oui, on va aller faire un petit tour en Catalogne parce qu'il y a quand même une histoire un peu étonnante. Quoi.
Oui, avec Emmanuel Razavi. Bonjour, vous êtes de Global Geo News. C'est quoi cet imbroglio justement, Catalogne sous cloche?
Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Eh bien, vous avez raison, c'est un imbroglio en fait en Catalogne, mais c'est surtout, en plus de l'imbroglio, la colère des 50 000 Français qui y vivent. Pourquoi ? Parce que la région de Catalogne, qui est autonome, je le rappelle, a interdit l'entrée et la sortie de son territoire, ce qui empêche les Français qui y vivent de rentrer chez eux en France. Et ce qui ne semble pas leur émouvoir du tout les représentants de la République française, qu'il s'agit en fait de l'ambassade, du consulat général. À Barcelone, du consulat général de France à Barcelone, où évidemment, en fait, des élus français qui représentent donc évidemment les Français de l'étranger.
Parce que rentrer, on comprend, mais sortir.
Ben oui.
Mais c'est ça qui est complètement aberrant, d'autant plus, en fait, Cécile, que si vous prenez la direction de la frontière, il faut comprendre que la Catalogne, encore une fois, ce n'est pas un État, et donc, elle n'a pas, en fait, à contrôler en fait, la frontière. En revanche, elle peut contrôler évidemment les routes qui passent dans sa région. Et en cas de contrôle, tout contrevenant français, donc qui s'exposerait à tenter de passer, si vous voulez, cette frontière, s'expose à une amende qui est comprise, tenez-vous bien, entre 600 euros et 60 000 euros.
Ah oui,
ah oui quand même. Oui. Ah oui, les gens de Perpignan là, et de l'autre côté qui vont passer, qu'ils soient prudents. Quoi, alors.
C'est quand même pas rien. C'est totalement aberrant. Mais ce qu'il faut savoir, en fait...
Hein, mais c'est sûr, que... ça, ou pas, parce que...
Ah oui, bien sûr. Ouais. Alors, attendez. Vous avez raison, Patrick, parce que ici ça change à peu près toutes les heures. Alors, c'est ce qui a été déterminé. Mais hier soir, en fait, hein, une conseillère de la santé, si vous voulez, catalane, hein, donc l'équivalent, entre guillemets, d'un ministre de la santé, si vous voulez, parce que je rappelle encore une fois que la Catalogne n'est pas un État, a annoncé que finalement, compte tenu de la colère, en fait, des Français sur les réseaux sociaux, peut-être, que la Catalogne allait revoir, en fait, ses positions, mais sous réserve de la validation, si vous voulez, donc ouvrir les frontières, sous réserve de la validation d'un comité scientifique catalan, dont on ne sait pas trop, finalement, par qui ni comment, en fait, il est composé. Mais ce qui est quand même dingue, c'est qu'il existe un protocole, il faut le rappeler, il existe un protocole de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui stipule que nul ne peut être privé du droit d'entrée sur le territoire de l'État dont il est ressortissant. La Catalogne donc met donc un coup de canif, si vous voulez, dans un accord, en fait, dans une convention, en fait, internationale. Mais c'est d'autant plus dingue que la Catalogne, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est une région autonome, mais qui va contre les décisions prises, en fait, par l'Espagne, parce que l'Espagne ne veut pas du tout fermer, n'a pas du tout fermé la frontière avec la France.
C'est ça. Et l'Espagne ne ferme pas, mais la Catalogne se met sous cloche, quoi, comme le disait Cécile
c'est
à l'instant.
Exactement ça. C'est ça. Bon. Et puis de l'autre côté, la France non plus n'a pas fermé sa frontière.
Non,
en fait, c'est une
vrai.
Région qui prend en otage deux États souverains.
Combien de Français l'a concerné potentiellement aujourd'hui ?
Alors officiellement, en fait, en Catalogne, hein, il y a 50 000 Français officieusement, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ne sont pas forcément déclarés auprès du consulat. On n'est pas loin de 80 000.
Bon, et puis on prévient tous ceux qui sont de l'autre côté de la frontière. Attention, si vous voulez aller en Espagne et passer par la Catalogne, parce que vous pouvez quand même avoir une petite
60
amende.
60 000 euros, hein, c'est bien.
Ah, ben ça, c'est le maxi.
60 000 euros. Ouais, c'est pas mal. Mais ici, on n'est pas à une incohérence près.
Merci, Emmanuel Razavi. Ça valait ce petit coup de fil dans le petit déjeuner de l'actualité. On va poursuivre dans un instant avec beaucoup d'invités jusqu'à 10 heures.
Oui, on va vous parler d'un nouveau magasin de digital. À l'Upside Store dans un instant. On va revenir sur un livre qui est très intéressant, qui s'appelle « Ceux qui n'ont pas le courage ne savent pas ce qu'ils perdent », avec Jean Veil, qui est un avocat émérite, entendu. Et on reviendra sur les restaurants et les boîtes de nuit qui sont fermés avec Tony Gomez. C'est le Grand Matin Sud Radio. À tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
9h03, merci d'être avec nous. C'est un nouveau réseau de magasins de proximité axé sur le digital qui ouvre en France, qui privilégie les relations humaines et qui valorise le digital reconditionné au meilleur prix. Et bien pour en parler ce matin, c'est Jean-Pierre Galera qui est avec nous, directeur général adjoint de Upside Store. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Mais je reparlais de commerce de proximité et de reconquête humaine. C'est un peu votre leitmotiv, Jean-Pierre Galera.
Oui, tout à fait. C'est effectivement le concept s'appuie sur des modes de consommation qui ont évolué et qui évoluent rapidement. Et c'est vrai que l'éco-responsabilité en consommation et notamment l'utilisation de produits reconditionnés est un marché en très très grande progression. Il faut savoir par exemple qu'il y a plus de 2 millions de smartphones qui sont consommés et commercialisés en France en reconditionné. C'est un marché qui est très très porteur. Il est beaucoup plus porteur que le marché du neuf, et c'est ce qu'on constate depuis quelques temps.
Ça devient très à la mode.
Non, mais c'est un peu comme la voiture. Si je peux me permettre cette comparaison, hein, Jean-Pierre Galera, il y a les voitures neuves évidemment qui font rêver et tout, et on achète beaucoup. C'est les voitures d'occasion qui sont reconditionnées et qui marchent bien et qui peuvent tenir quoi un petit bout de temps évidemment. Hein.
Absolument. Et puis il y a aussi une nécessité de plus en plus grande des consommateurs que d'obtenir les meilleures fonctionnalités sur ces produits multimédia, parce qu'on parle des smartphones, mais au sein des réseaux Upside Store, c'est pas seulement les smartphones, c'est une grosse partie de notre
objets connectés multimédia,
c'est tous les objets connectés multimédia, ce sont les tablettes, ce sont les PC, ce sont également les télévisions, et effectivement les consommateurs souhaitent avoir les dernières fonctionnalités qui sont pas toujours accessibles en termes de prix sur des produits neufs et qui le deviennent sur des produits reconditionnés, La qualité du reconditionnement, c'est un de nos leitmotivs majeurs. Mmh. Et c'est vrai que c'est là-dessus que ça se joue. Ça veut dire que ces matériels sont reconditionnés en France, à Romans-sur-Isère. Ce sont des matériels qui sont garantis 12 mois. Ouais. Et puis, au sein de nos magasins Upside Store, nous avons aussi créé des espaces de réparation pour les petites réparations d'usage, ce qui permet aussi de renforcer la proximité et qui garantit aussi une certaine qualité dans la relation avec nos clients.
Alors aujourd'hui, 40 magasins, ce qui est de points de vente, et forcément, bah, vous allez vous étendre sur la France.
Absolument, nous avons en projet, et c'est plus qu'un projet d'ailleurs, puisque ce sont des cellules qui sont d'ores et déjà retenues, qualifiées, et que nous sommes en train de travailler pour les ouvrir. Nous allons ouvrir 80 magasins en 2021 pour avoir une centaine de magasins un petit peu plus en France. Et puis ce concept est un concept novateur et original, puisque à notre connaissance, même au niveau européen, il n'existe pas de structure dédiée comme cela, non seulement à nos produits reconditionnés et à cette possibilité que peuvent avoir les consommateurs de venir toucher, voir, tester les matériels reconditionnés avant de les acheter, puisque le gros du marché est essentiellement sur Internet. Eh bien, nous avons aussi pour intention de développer ce concept à l'international et dans tous les pays où notre groupe travaille, et notamment l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Belgique, dans lequel notre ambition est d'avoir 500 magasins à l'échelle européenne avec une grosse centaine en France dès l'année prochaine.
Et c'est pour ça bien. Que je parlais de reconquête humaine.
Oui, reconquête, et puis dans un marché en fait et dans un contexte difficile, vous avez du courage pour y aller, pour avancer, et ça marche quand même, quoi. Même si évidemment j'imagine que la période a été un petit peu compliquée là ces derniers temps, qu'il a fallu s'adapter, quoi, pour les magasins.
Alors absolument, il a fallu évidemment s'adapter comme tout le monde. Mais effectivement, nous sommes ravis de nos premières ouvertures. Nous avons mis beaucoup d'ingrédients pour que cela fonctionne. Il y a effectivement un côté novateur important, mais effectivement, nous sommes ravis, même si les conditions sont pas évidemment idéales. Ouais. Ceci étant, dans cette situation, on s'aperçoit également que les consommateurs prêtent une attention toute particulière à leurs outils multimédia, et donc ça renforce un peu plus encore leur appétence sur ce type de produit et leur nécessité d'avoir une proximité pour les acquérir ou les faire réparer. Oui, on a du courage, mais on sait également ce que l'on fait. Et puis ce qui est important aussi dans cette situation économique actuelle, c'est que le déploiement de ce concept Upside Store en France en particulier, c'est générateur d'emplois. Oui. Et ce qui est important de signaler, c'est qu'aujourd'hui, nous avons 350 postes à pourvoir, puisque pour effectivement équiper et avoir effectivement le personnel nécessaire pour ouvrir nos 80 points de vente en 2021, il est nécessaire dès aujourd'hui de pourvoir 350 postes qui vont de responsables de magasins, en passant par des vendeurs et des réparateurs.
On trouvera sur votre site.
Sur votre site, oui.
Absolument, sur upside.job.fr, toutes les annonces sont postées, et évidemment les candidats peuvent venir nous rejoindre, et on les attend avec grand plaisir, parce qu'on a besoin de monde, et c'est important en ce moment de pouvoir trouver des opportunités d'emploi.
Et Jean-Pierre Galera, vous savez que vous êtes le Père Noël en ce moment sur Sud Radio, savez ça?
Oui, je le sais, absolument, je suis au courant.
On a monté une opération avec vous, bravo,
Vous parliez d'humain, et ben Françoise est avec nous de l'Aude, restez avec nous Jean-Pierre Galera. Bonjour Françoise.
Bonjour Françoise.
Alors vous êtes la dixième appel au standard, hein, 0826 300 300, Sud Radio. Et vous avez gagné un iPhone 12 offert par Upside Store.
Je suis sur mon canapé, tombée à la renverse tellement... Ne m'y attendez pas.
Vous pouvez remercier Jean-Pierre Galera en direct. C'est lui qui vous l'offre.
Oui, tout à fait. Merci beaucoup.
Écoutez, avec grand plaisir, et je vous souhaite d'excellentes fêtes.
Voilà. Et vous découvrez probablement Upside Store, qui vient de se lancer il y a quelques temps, 40 magasins.
Et bientôt dans l'Aude. Vous aurez des magasins dans l'Aude, Jean-Pierre.
On est un petit peu pour compte dans l'Aude, donc
absolument. Nous serons présents dans toutes les villes de plus de 50 000 à 100 000 habitants. Donc nous serons présents dans l'Aude, évidemment, aussi.
En tout cas, Jean-Pierre Galera, merci beaucoup de nous avoir suivis pendant toute cette semaine. On espère pouvoir continuer, bien entendu, à travailler longtemps avec vous. On vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Françoise, on vous embrasse très fort. Vous nous écoutez depuis longtemps ?
Ah oui, ça fait à peu près 2 ans. Depuis que je suis à la retraite, j'ai découvert Sud Radio. Et maintenant, c'est ma seule radio.
Oh, vous êtes chou, on vous fait plein de bisous.
Pourquoi? Parce que c'est un esprit famille un peu chez nous en même temps.
Oui, c'est ça. Et puis, bon, vous traitez l'actualité d'une façon différente des autres chaînes. Donc, ça me convient davantage.
Ah, merci beaucoup, qu'est-ce qu'on Françoise. A de différent, alors, Françoise, en deux mots?
La façon de traiter l'info, de vos invités qui sont pas les mêmes, qui n'ont pas toujours le même discours.
Voilà.
J'écoute beaucoup Berkoff, donc.
Bien sûr. Continuez en tout cas.
Il y a aussi, il y a de tout.
Ben oui.
Voilà.
JTL l'après-midi.
Voilà.
Ouais. On vous embrasse.
Pas bon, voilà.
Passez de belles fêtes.
Beaucoup. Passez de belles fêtes. Merci Jean-Pierre Galera de Upside Store et puis. Continuons à nous offrir aujourd'hui toute la journée des iPhones. Et on revient dans un instant.
On a parlé de courage de l'entreprise Jean-Pierre Galera qui en avait effectivement pour monter en fait une société comme ça, s'étendre dans toute la France, dans cette période économique, il en faut. Mais vous allez voir que l'année 2021, justement, sera l'année du courage. Et puis on peut le décliner sous toutes les formes.
Et on reviendra sur le courage politique d'ailleurs. Bon, à tout de suite.
Avec l'avocat Jean Veil qui sera avec nous pour un ouvrage qui est marrant en même temps.
Parce qu'il y a plein de choses à apprendre. À tout de suite, 9h11.